Et donc au menu de notre club des Têtes au Carré cet après-midi, l'impact du bruit sur la santé avec la semaine du son, une première dans le domaine cardiaque avec les premières grèves de cellules souches musculaires, un serious game sur les disputes parents-ados, et puis une conférence spectacle sur les possibilités de la vie sur d'autres planètes. Vous nous rejoignez avec vos messages et vos questions, franceinter.fr, et puis également sur les réseaux avec le mot-clé l'attaque. Et puis à la une de la science aujourd'hui, la sonde européenne Rosetta qui nous révèle de nouveaux secrets de la comète Chou, avec de grosses surprises pour les astronomes et des phénomènes beaucoup plus complexes que ceux qui étaient attendus. On vous raconte tout ça dans un instant avec Philippe Hénarejos de Ciel et Espace et avec l'astrochimiste Hervé Cottin. Violaine Ballet est aux commandes de ce club des Têtes au Carré qui a été préparé par Anne-Cécile Perrin, Axel Villard et Fanny Cohen-Moreau.
La Tête au Carré, le club avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Bonjour Christian Higonnet. La semaine du son, c'est donc en ce moment, et à chaque fois que je vous reçois, je me dis que je devrais vraiment baisser un peu plus le volume du casque que j'ai ici dans le studio sur mes oreilles, avant de devenir complètement sourd. Ça fait partie des messages que vous tentez de faire entendre hein, au public.
Oui, on s'est aperçu qu'on avait 85% des jeunes qui aujourd'hui écoutent au casque, quand même, c'est important. Et donc ça veut dire que c'est un moyen d'écoute qui se généralise jusqu'à très tard le soir avant de se coucher. Même, et même des jeunes qui s'endorment avec le casque aujourd'hui.
Ouais, et c'est un vrai problème pour les oreilles.
Pour faire attention, il faut savoir l'utiliser surtout.
Vous avez mené une enquête auprès des jeunes justement et sur ce sujet du son. Vous nous donnerez les résultats tout à l'heure. Frédéric Ferrer, bonjour.
Bonjour.
Vous serez demain sur la scène du Théâtre du Rond-Point pour une conférence performance sur les possibilités pour l'homme de coloniser une autre planète. Ça vous titille cette idée-là ?
Oui, et puis à la base, c'était une commande aussi qui m'a été faite par l'Observatoire de l'espace du CNES, qui m'avait, parce que ça s'inscrit dans le cadre d'un cycle qui s'appelle les cartographies, qui met en jeu des territoires. Et puis il y a eu cette commande du CNES de travailler sur nos possibilités de vivre ailleurs que sur Terre.
Donc, voilà. Ben, vous avez un astrochimiste en face de vous, Hervé Cottin, il pourra peut-être vous donner des pistons hein, pour pouvoir peut-être déménager un jour. Xavier Pomereau, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes pédopsychiatre et vous avez mis au point un simulateur de disputes parents-ados. Est-ce que vous avez décidé de remplacer tous les psys par des jeux vidéo ? C'est ça le but de votre affaire ?
Pas vraiment, mais en tout cas c'est de les aider, d'aider en tout cas tous les professionnels en charge d'adolescents à pouvoir mieux communiquer avec des jeunes gens qui sont souvent aujourd'hui réticents avec les interrogatoires un peu classiques sur l'air de « parle, dis ce que tu as » et c'est tout. Donc c'est un support pour aider à la communication.
Voilà, vous nous présenterez tout à l'heure donc votre Serious Game et puis le professeur Philippe Ménaché nous rejoindra pour nous parler de cette première, je vous le disais, dans le domaine de la thérapie cellulaire cardiaque. Vos messages sur le site de l'émission. Ils sont tout frais et très surprenants, les nouveaux résultats de la sonde Rosetta publiés hier, et c'est aujourd'hui à la une de la science.
We are just providing data. The scientists will make the work, and I am sure that the scientific data that we shall collect will give them for decades of work. So I wish bon courage to all the scientists which are today waiting for the data.
Voilà, on ne s'en lasse pas la voix en anglais de Jean-Jacques Dordain, le directeur général de l'ESA, à la une de la science. Donc aujourd'hui, les surprises de la comète Chury, avec une flopée de publications, de nouvelles images qui dévoilent un monde complexe et mystérieux. Bonjour Hervé Cottin.
Bonjour.
Vous êtes astrochimiste et professeur à l'université Paris-Est-Créteil. Et Philippe Hénarejos nous a rejoint. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Rédacteur en chef adjoint du magazine Ciel et Espace Science, donc, qui publiait hier 7 publications d'un coup. Ça correspond aussi aux instruments d'observation qui se trouvent à bord de la sonde aux états donc de l'ESA. Hervé Cottin, les comètes se dévoilent et les scientifiques, on peut le dire, vont de surprise en surprise à la lecture de ces résultats.
Oui, on entendait en anglais M. Dordain dire qu'on en avait pour des dizaines d'années et peut-être que ces dizaines d'années ne suffiront pas parce que les comètes sont des corps qu'on s'attendait à être assez primitifs, donc quand on dit primitif, peut-être assez simple. Et en fait, en tout cas, en surface, cette comète révèle des topographies, des chaos, des gouffres auxquels on ne s'attendait pas du tout. Et j'aurais tendance à dire ce n'est que la première fournée de données, parce que ces images ont été prises entre août et septembre, quand la comète est loin du Soleil, et probablement elle va encore se transformer. On va avoir sous nos yeux un véritable spectacle qui va être très très fascinant, à mon avis, et qui va nous apprendre énormément de choses sur ces petits objets.
Donc, Philippe Hénarejos, des objets primitifs, certes, mais complexes. Hein, on le voit à la lumière de ces résultats, quand même.
Oui, dans ces résultats, vraiment, ce qui marque, ce sont les photos. C'est vrai que c'est le sens le plus immédiat à la vue, mais franchement...
Elles sont sur le site de la Tête au Carré, oui. D'ailleurs, Axel. Hein, on les a mis.
Il y en a beaucoup. Il y a les plus belles qu'on a sélectionnées, qu'on a mis sur le site, mais sinon, on peut en retrouver sur le site de l'ESA. Et
voilà, mais les auditeurs peuvent y aller pendant qu'on discute.
Voilà, j'insiste là-dessus parce que jusque-là, on connaît la comète depuis le mois d'août, depuis que Rosetta est arrivée autour. Et jusque-là, on a vu, en gros, toutes les photos qu'on a vues, quasiment à quatre exceptions près, c'était des photos de la caméra de navigation qui sert, qui n'est pas scientifique, donc qui sert juste pour la sonde, pour qu'elle se guide. Donc on avait quand même déjà vu que la comète était compliquée, qu'elle avait une forme biscornue, qu'il y avait des terrains qui avaient l'air souples, d'autres très rocailleux, etc.
Ouais. Mais on n'est pas déçus, là. Hein,
là, on n'est pas déçus parce qu'on rentre dans le détail, ce qu'on attendait depuis belle lurette, il faut bien le dire.
Ouais.
On voit enfin dans le détail, et dans le détail, on voit des nouvelles choses très surprenantes. Hervé Cottin parlait tout à l'heure de gouffres. C'est vraiment le cas. Je crois qu'il y a une espèce de puits qui a l'air sans fond, comme ça, quand on le regarde sur la photo, qui fait une centaine ou 150 mètres de diamètre. On voit les parois. On peut se demander si les parois ne sont pas, comme des géologues, quand ils regardent un cratère d'impact, les couches internes de la comète. Donc, pour l'instant, on a beaucoup de questions sur ce qu'on voit, mais les réponses se trouve là, à portée de notre vue. On voit aussi d'autres excavations avec comme si de la matière avait dégouliné. Or, a priori, sur une comète, il n'y a pas de liquide.
Ouais, on n'est pas sur Mars. Ça.
Voilà, on s'aperçoit que ces trous, ces cavités, elles sont en corrélation avec certains jets, c'est-à-dire des émanations de gaz, qui fait que la comète, en se rapprochant du Soleil, ben, ses corps glacés sont en train de se transformer en vapeur. Donc c'est peut-être de là que sort la chevelure de la comète.
Ouais. Axel, il y a des messages sur le mot-clé l'attaque.
Oui, il y en a beaucoup. Et il y a Damien qui demande si on sait maintenant pourquoi Tchoury ressemble à un canard de l'espace. C'est vrai que la forme a fait beaucoup
canard
rire.
Ou cacahuète, hein, cacahuète, au choix. Oui.
Est-ce qu'on a des infos sur cette forme ?
Hervé Cottin.
Alors, il y a des choses qui sont assez étonnantes, effectivement. Et depuis le début, depuis le mois d'août, on se demande si cette comète est constituée de deux objets qui se sont regroupés ou bien d'un objet qui s'est érodé de manière privilégiée au milieu. Et il y a certaines observations qui vont dans un sens, qui disent que c'est ça. Pour être deux objets, parce que par exemple, on parle des photos, mais aussi des mesures chimiques dans l'atmosphère par un instrument qui s'appelle Rosina, qui détecte que c'est principalement de l'eau quand on survole certaines régions du noyau qui est émise, avec un petit peu de dioxyde de carbone et de monoxyde de carbone. Et quand on survole d'autres régions, c'est l'inverse, c'est plutôt le monoxyde et le dioxyde de carbone qui dominent et l'eau qui est un petit peu en retrait. Donc ça peut être interprété comme une hétérogénéité de formation, mais ce n'est pas suffisant. Il y a d'autres arguments qui peuvent laisser penser que c'est au contraire un objet qui s'éroderait de manière privilégiée en ce sens. Donc on en est au début, ces publications soulèvent énormément de questions. Et ces questions, déjà rien que voir comment la comète va évoluer au cours de cette année, parce que Rosetta suit la comète encore au moins jusqu'au mois de décembre et peut-être même encore une bonne partie de l'année prochaine.
Oui.
Déjà, rien que voir comment ça évolue, ça va nous apporter beaucoup d'informations. Et c'est ça la richesse de Rosetta, c'est pas juste un survol rapide où on a quelques photos et puis il faut faire avec ces quelques photos. Là, on va avoir des milliers de photos, des milliers de mesures sur des centaines et des centaines de jours.
Alors, juste une parenthèse, Philippe, sur les photos, il n'y a pas le robot Philae, hein, parce que les photos ont été prises avant l'atterrissage de Philae sur la comète Tchoury. Hein.
Voilà. Il y a certainement des photos de cette caméra à haute résolution qui ont été prises après l'atterrissage et qui ont été prises depuis une distance très courte puisqu'il y a eu encore un survol très rapproché. Donc peut-être qu'on pourra voir Philae, mais a priori, pour l'instant, on n'a pas de nouvelles.
Ouais. Axel, le mot-clé l'attaque toujours.
Une autre question d'un compte tenu par deux personnes apparemment, Audrey et Vincent, qui demandent « Est-ce qu'on sait comment se sont formés les matériaux organiques de la comète ? Quelles sont leurs natures ?»
Alors,
les matériaux organiques, effectivement, on les voit. Alors, on ne les voit pas à l'œil nu hein, quand on regarde les images, mais c'est un autre instrument qui s'appelle Virtis, qui prend des images dans un domaine de longueur d'onde qui est l'infrarouge. Et dans l'infrarouge, on peut avoir des informations sur la composition. Et dans une gamme de l'infrarouge, autour de ce qu'on appelle 3 microns, il y a une bande d'absorption. Et cette bande d'absorption, elle s'explique par la présence de liaisons carbone-hydrogène. Donc ça, cette bande d'absorption, elle est présente, on la voit clairement sur les spectres. savoir sous quelle forme exacte est le carbone, quel type de molécule est vraiment présente. Il y a des indices qui laissent penser qu'il y a aussi de l'oxygène. Mm-hmm. Il n'y a rien qui laisse, qui en tout cas fait entrevoir la présence d'azote directement. Mais là encore, on voit ces spectres et maintenant il y a un travail qui va être de très longue haleine qui va être essayé de reproduire ces spectres en associant des choses qu'on connaît ou des choses qu'on va essayer de reproduire en laboratoire pour essayer de savoir sous quelle forme et donc comment est arrivée cette matière organique.
Alors Philippe, qu'est-ce qu'il faut retenir de ces premières images Science ? C'est cette diversité géologique de la surface de la comète qui surprend là tout le monde précisément avec ses contrastes partout.
Oui, ça, c'est comme toujours, quand on découvre un monde totalement nouveau, là on est à la proue du navire et on aborde une île nouvelle. Donc bien sûr, on l'avait déjà vu de loin avec la caméra de navigation, je ne reviens pas dessus. Mais là, on voit des choses qu'on n'imaginait pas. Bien sûr, grosso modo, on savait qu'une comète, c'était fait avec des choses glacées qui se vaporisaient, etc., des roches, tout ça. Mais comment tout ça a été assemblé ? Comment tout ça s'est constitué ? C'est là-dedans, c'est dans cette mécanique-là qu'on est en train de rentrer aujourd'hui.
Oui, Hervé Cottin, il y a une faille aussi qui apparaît sur les photos sur la comète. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça dit de son histoire ?
J'aurais tendance à dire encore, c'est trop tôt. Il y a cette faille. Est-ce que ça veut dire que le noyau est en train de progressivement se séparer ? Alors sans doute pas à l'échelle de l'année, mais peut-être dans quelques dizaines, centaines, milliers d'années, la comète va se séparer au cours d'un nouveau passage. Ou est-ce que c'est en fait une signature de quelque chose, justement, de cette association entre ces deux objets ? J'aurais tendance à dire que c'est trop tôt pour le dire. Mais voilà, on a le temps devant nous et c'est ça qui est très original dans cette mission et fantastique.
Et il y a une telle complexité d'ailleurs que la comète a été divisée en plusieurs régions auxquelles on a donné des noms égyptiens, hein, c'est ça, pour pouvoir justement étudier toute cette complexité et ces découvertes, ces surprises donc, de la comète Chury. Hein.
Oui, il y a 19 régions, donc ça veut dire que déjà, en gros, même très grossièrement, il y a 19 types de topographie qui sont présentes sur ce noyau.
Merci beaucoup à tous les deux. Donc, publication Science qui est tombée hier soir et ces photos magnifiques qui sont sur le site de la Tête au Carré, également sur Ciel et Espace. Philippe, vous allez commenter.
Pas encore. Sur Ciel et Espace, on en a d'autres. Des photos de la NAVCAM qui montrent qu'entre le 8 décembre et le 8 janvier, des choses ont bougé sur la comète. Quand on parle de suivre l'évolution de la comète au fil des mois, en un mois, vous allez voir sur les photos à basse résolution qu'il y a déjà des trous, des failles, des choses comme ça qui sont apparues.
Voilà, tout est complémentaire évidemment pour étudier cette comète Chury. Merci beaucoup à tous les deux. Allez, et puis en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, une découverte de poissons sous l'Antarctique lors d'un forage à travers la barrière de Ross. Une équipe américaine de scientifiques a découvert des poissons prospérant dans une obscurité totale. Ils vivent dans une poche d'eau de mer de seulement 10 mètres de haut, coincée sous un toit de glace de 740 mètres d'épaisseur. En tout, les chercheurs ont compté au moins 20 espèces de poissons. Ils sont d'ailleurs assez étonnés qu'un tel écosystème ait pu survivre en étant aussi loin de la lumière du soleil. La fécondation in vitro de plus en plus efficace, les risques de naissances prématurées ont remarquablement diminué de 13% dans les années 90 à 8% en 2007 avec des bébés qui naissent de moins en moins avec un très petit poids. Ces résultats issus d'une étude scandinave s'expliquent par la méthode d'implantation d'un seul embryon à la fois au lieu de plusieurs comme ça se faisait dans les années 90. Autre conséquence de la systématisation de cette pratique, la proportion de jumeaux parmi les enfants nés par fécondation in vitro a aussi baissé depuis le début des années 2000 jusqu'à 11% en 2007 contre 23% en 1998. Et puis pour finir, la mise au point d'un métal qui rejette la moindre goutte d'eau à sa surface. Des chercheurs de l'université américaine de Rochester sont parvenus donc à fabriquer une nanostructure métallique hydrophobe. Ce n'est encore qu'un prototype, mais ce genre de matière pourrait être très utile, notamment dans la fabrication de téléphones étanches. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la vidéo de présentation de ce métal hydrophobe sur la page Facebook de la Tête au Carré. Allez, ils sont en place, les invités scientifiques du club, dans un instant.
In the name of
Voilà un petit cadeau de notre programmateur Jean-Michel Montu pour démarrer le week-end avec U2.
Salut.
Le club.
Open bar toute la nuit, ambiance de folie, toute sortie définitive.
Sur France Inter.
Se laisse réfléchir.
Christian Hugonnet, vous êtes le premier invité de notre club des Têtes au Carré. Vous êtes ingénieur acousticien, président de la 12e édition de la Semaine du Son. Ça a commencé le 19 janvier, ça se poursuit jusqu'au 8 février. Costa Gavras, c'est le cinéaste invité parrain de cette édition. Et donc, vous poursuivez inlassablement votre sensibilisation aux enjeux de notre environnement sonore. C'est important, avec plus de 200 événements dans toute la France et à l'étranger. Il y a d'ailleurs un site internet, une adresse, lasemainedusson.org, qui est à disposition donc, du public et des auditeurs. Alors, vous mettez cette année en lumière le rôle du silence, du bruit, du son dans notre quotidien. On connaît bien maintenant les impacts du bruit sur la santé. Il y a beaucoup d'études dans ce domaine.
Relativement peu. Ouais. C'est bien pour cela qu'on avait envie de lancer déjà une enquête pour révéler un petit peu la manière avec laquelle les jeunes, quand on dit les jeunes, c'est de 15 ans à 35 et de 35 à 45, vous voyez, donc c'est une large
fourchette. C'est bien, c'est sympa pour nous.
Pour ceux qui sont là, c'est sympa pour tout le monde. Ouais. Et comment les gens précisément écoutent ce qu'on appelle ces loisirs bruyants, hein, je veux dire, à des niveaux assez importants, principalement la musique. Hein. Mm-hmm. Et on voulait savoir un peu ce qu'il en était des conséquences. Voilà. Et l'enquête est très intéressante car les résultats sont probants, c'est-à-dire qu'on apprend que 8 jeunes sur 10 ont déjà ressenti des troubles auditifs, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont ressenti des acouphènes, des expériences d'acouphènes, d'hyperacousie, ouais. D'oreilles cotonneuses. Donc ça fait partie des expériences déjà 8 jeunes sur 10, ce qui est quand même tout à fait important.
Donc il y a l'impact aussi de l'écoute au casque, on en parlait tout à l'heure, qui est particulièrement sensible justement chez les plus jeunes.
Voilà, l'écoute au casque, c'est le haut-parleur qui se rapproche un petit peu du tympan et du coup il faut faire attention parce qu'on n'a plus ce médium indispensable qui est celui de l'air et du coup on va exciter le tympan d'une manière un petit peu forte. Le problème c'est qu'en plus de ça il y a un engouement qui se crée et plus ça va, plus on aura envie d'écouter fort. Ouais. Autrement dit, 85% des jeunes nous disent aujourd'hui clairement qu'ils veulent écouter fort pour être dans l'ambiance, pour être plus immergé, pour être à l'intérieur d'un tout et aussi peut-être pour ne pas être dehors. Hein, ouais. Problème d'exclusion.
Problème, c'est qu'on passe de plus en plus de temps avec ses casques sur les oreilles. Il suffit de voir autour de nous dans les transports en commun, par exemple. Hein. Chacun porte quasiment un casque.
Oui, alors c'est intéressant parce qu'on pensait, nous, qu'on avait vraiment une écoute nomade avec le casque, que le casque était vraiment synonyme d'écoute nomade, donc en extérieur, dans le métro, etc., dans la rue. Et en fait, on s'aperçoit qu'on a encore plus de jeunes qui écoutent en fait, au casque à domicile. Ouais. Chez eux, quand ils rentrent chez eux, ils sont encore plus nombreux en fait, à écouter au casque.
Est-ce qu'ils sont sensibles aux messages que vous tentez de leur transmettre précisément?
Oui, à condition...
Là, dans l'enquête, par exemple, qu'est-ce qu'il en ressort?
Oui, c'est-à-dire, ben, c'est une première analyse déjà. Maintenant, je crois que ce qu'il faut, c'est se dire qu'on écoute la musique tous. On a besoin d'écouter de la musique, et la musique est un élément fondamental de notre devenir, de notre équilibre à tous. Il faut savoir simplement l'écouter correctement, avec effectivement des pauses régulières. Mais ça, je crois que ça commence à venir en termes d'écoute. Il faut savoir reposer les oreilles de temps en temps.
Bon, le silence étant le luxe absolu aujourd'hui, ben, vous en parlez, vous lui consacrez une part aussi.
Hein, demain après-midi, on sera effectivement une après-midi au Collège du Bernardin pour parler du silence et de l'importance du silence.
Et vous allez en parler alors donc.
Ah,
vous ne ferez pas silence au Bernardin en plus.
Ah, oui. Ben, c'est intéressant parce que le silence, c'est la virgule de l'oreille, hein. c'est la respiration, c'est les petits moments qui nous permettent de comprendre le monde.
Hein. Ouais. Costa Gavras, donc le parrain, vous avez parlé un peu de cinéma aussi en rapport avec le son.
Ah, je veux, c'était
et
hier,
le
c'était avant-hier sur les niveaux sonores d'ailleurs dans les salles de cinéma qui sont décriés la plupart du temps. On dit toujours oui, les niveaux sonores sont forts dans les salles de cinéma. Bon, on a essayé de comprendre et d'expliquer à l'espace Pierre Cardin avec Costa Gavras pourquoi on avait des tels niveaux sonores.
Quels sont les messages justement, les recommandations pour le niveau sonore puisqu'on évoque les casques en particulier? Comment est-ce qu'on peut savoir si on dépasse un petit peu justement le niveau recommandé?
Il y a sur les iPhones, maintenant, on trouve effectivement des indicateurs, des flèches qui permettent des trucs qui se mettent au rouge, hein, qui permettent effectivement tout de suite de dire attention, vous êtes en surexposition. Donc regardez déjà ça, c'était à disposition de tout le monde, en tout cas sur tous les nouveaux iPhones. Mais je crois que d'une manière générale, il faut rester surtout en contact avec le monde extérieur. Ne pas se couper du monde extérieur avec des casques qui sont de plus en plus fermés, certes de plus en plus confortables, mais qui nous mettent en isolement vis-à-vis de tout ce qui se passe par ailleurs, du monde extérieur. Donc il faut savoir les déposer de plus en plus souvent, de manière à garder justement ce rapport à un son qui est naturel, si je puis dire.
Christian Higonnet, vous filez au grand auditorium de Radio France, là, juste après notre rendez-vous.
Voilà, donc on fait une très belle après-midi cet après aujourd'hui avec Costa, là, qui nous a rejoint. Et nous serons nombreux, Jean-Claude Casadesus qui sera avec nous également, pour parler justement de l'acoustique de cet auditorium et de l'enregistrement et de la production du son.
Voilà, dans ce lieu magnifique. Et donc le site à disposition du public, puisque 200 événements dans toute la France et en Europe sur lasemainedusson.org. Vous filez donc, Christian Higonnet. Merci d'être passé par notre club des Têtes au Carré cet après-midi.
Merci.
Frédéric Ferrer, vous êtes auteur, metteur en scène de spectacle, artiste et géographe. Dans quel sens il faut prendre les choses? D'abord scientifique?
Dans le sens que vous voulez, en même temps, les deux en même temps.
Vous avez tout fait en même temps, en fait, c'est ça?
J'ai fait du théâtre. Non, je crois que j'ai fait du théâtre plus tôt, parce que j'ai commencé le théâtre à l'école, donc j'ai fait du théâtre plus tôt que la géographie, finalement.
Ouais. Et sous quelle forme, la géographie? En tant que professeur ou...
Oui, enfin, je suis allé à la fac et puis j'ai passé une agrégation et j'ai enseigné 4 ans.
Alors demain, vous serez sur la scène du Théâtre du Rond-Point. J'imagine que vous êtes en pleine répétition, là, justement, pour cette conférence-performance. Alors, c'est à 18h30, qui s'intéresse, entre autres, aux possibilités de vivre ailleurs sur d'autres planètes. Et ce sera la première de « Wow ».
Exactement.
C'est le titre de la conférence. Hein.
Voilà, c'est le titre, c'est le signal « Wow » qui avait été entendu en 1977 dans le radiotélescope de l'Université d'Ohio et qui était un signal... un son qui sortait du bruit habituel de l'univers et qui a intrigué et qui a lancé en grande partie toutes les recherches du SETI ensuite pour essayer de savoir d'où venait ce son. Est-ce qu'il n'était pas finalement le signe d'une présence ailleurs, intelligente,
c'est
capable
ça.
De communiquer et de nous envoyer des signaux que nous avec lequel on est bien embêté.
Donc c'est le scientifique qui a émis ce son waouh et qui vous a inspiré comme titre justement de votre rendez-vous.
En fait, il l'a écrit sur le bout de papier, sur l'enregistrement, il a écrit waouh à la main.
On sait l'origine de ce son aujourd'hui ou pas du tout?
Non.
Ça reste encore un mystère.
Oui, je crois que ça reste un mystère. Ouais. Ouais.
Et donc, c'est un petit peu le fil rouge précisément de votre spectacle.
Alors, le fil rouge, c'est partir... Je pars du constat qu'à un moment donné, l'espèce humaine, et pas seulement l'espèce humaine, mais tout l'ensemble du vivant, mais surtout l'espèce humaine, puisqu'on est directement concerné, n'a pas d'avenir sur la planète Terre, puisqu'à un moment donné, de toute façon, ça devra s'arrêter, tout ça. Mais quelque soit la cause et la temporalité. Donc ça peut s'arrêter à courte échéance ou à longue échéance.
Donc il faut aller chercher ailleurs, en fait,
donc,
c'est ça
l'idée. Voilà, il faut aller chercher ailleurs.
Comment vous avez travaillé sur cette idée? Alors, puisque beaucoup de vos spectacles, justement, sont empreints de science, vous côtoyez les scientifiques, vous allez leur poser des questions pour écrire, justement, le scénario?
Voilà, c'est ça. Donc là, ça a été pas mal de rencontres qui ont été organisées par l'Observatoire de l'espace du CNES, avec des exobiologistes, avec, tout à l'heure, vous parliez de Francis Rocard, Dakar, etc., sur la terraformation. Donc j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont permis de cheminer dans cette question que je me posais initiale. Quelle chance avons-nous d'aller vivre ailleurs ?
Comment l'est reçue cette question d'ailleurs par les scientifiques ? Ils l'apprennent avec humour, avec détachement ou très au sérieux au contraire ?
Les deux en même temps.
C'est-à-dire qu'il y a des études qui sont menées sur le sujet ?
C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'exobiologie regarde les possibilités de vie ailleurs, d'existence de vie ailleurs...
Mais au point d'y installer des colonies humaines ?
Il y a des projets très très sérieux de colonisation, d'implantation de colonies humaines sur Mars. Il y a un projet de la NASA sur Vénus aussi, dans l'atmosphère de Vénus. Donc il y a des projets, même s'ils ne sont pas aujourd'hui faisables. Mars, sans doute, enfin moi je ne peux pas m'avancer, je ne suis pas un spécialiste, mais sans doute qu'au cours de ce siècle, il y a des chances. Et puis il y a aussi le projet de l'entreprise néerlandaise.
Sur Mars One.
Mars One,
c'est ça.
Voilà.
Qui
est dans à peine 20 ans.
C'est ce qu'ils disent,
oui.
C'est ce qu'ils vendent pour l'instant. Oui. Mais quand on en parle avec les scientifiques, ils sont un peu plus dubitatifs, évidemment, sur cette question. Alors, vous intéressez à ces questions-là. C'est ce qu'on verra donc principalement dans la conférence de demain.
Oui, et c'est surtout, en fait, ce qui a aussi déclenché cela, c'est la découverte depuis 1995 d'énormément d'exoplanètes et qui, là, vraiment libère nos imaginaires. Parce que s'il y a des... Puis on en découvre... Là, tous les mois, il y a la découverte d'une nouvelle Terre.
D'une nouvelle candidate. Quasiment, il y a une nouvelle candidate.
Qui a la même masse, la même taille, le même poids, la même gravité, presque. Et y a plus qu'à y aller, quoi.
Ouais. Frédéric Ferrer, vous participez également à des conférences débats sur les dérèglements climatiques. Ça, c'est un autre pan, justement, de votre activité d'artiste.
Alors, ça fait partie de la même chose. C'est-à-dire que, en fait, c'est un cycle artistique qui s'appelle l'Atlas de l'Anthropocène et qui rassemble toute une série de conférences, performances qui sont construites un peu de la même manière avec un PowerPoint qui signe en fait le discours, qui signe la dramaturgie. Et puis à chaque fois, je prends un sujet, je travaille sur des sujets différents. J'ai travaillé sur la polémique qui existe avec les climato-sceptiques.
Bien
j'ai travaillé sur les Vikings au Groenland. J'ai travaillé sur un canard en plastique de la NASA, parce qu'on parlait de canard.
Ouais,
était perdu dans un glacier du Groenland. Je travaille aussi sur un moustique avec des entomologistes, un moustique que j'ai poursuivi en Afrique. Et à chaque fois, après un an de travail en général avec les laboratoires ou sur le terrain, je crée un spectacle qui propose une solution raisonnée.
Eh bien, on verra ça demain, alors, au Théâtre du Rond-Point.
Oui, voilà.
18h30.
C'est à 18h30
pour cette conférence. Il y aura d'autres choses. Ce sera la Maison des Métallos, par exemple, le 27 janvier. Voilà. Dans la préparation, justement, toujours dans cette optique de la conférence sur le climat. Le 31 janvier, vous serez toujours là-bas, à la Maison des Métallos. Puis vous allez tourner un peu en France aussi. Il y a quelques dates.
Et puis, il y a une date importante au Phénix, à Valenciennes, le 12 mars, dans le cadre d'un cabinet des curiosités qui s'appelle Alien. Voilà.
All Aliens.
All Aliens, exactement.
Et on aura toutes les dates sur verticaldetour.org pour vous suivre, Frédéric Ferrer. Là aussi, je vous laisse filer. Je vais me retrouver tout seul dans ce studio, mais heureusement, on a d'autres invités, je les aperçois déjà derrière la vitre, qui sont arrivés. Bonne répétition donc.
Eh bien, merci beaucoup.
Et à demain, Tête du Rond-Point, 18h30 à Paris.
Merci beaucoup.
Tu dis que je fais le gamin, tu me traites de gosse, mais c'est pas une insulte. Le jour où tu le comprendras, tu deviendras adulte. Moi j'ai accouché mes parents, puisqu'avant moi, ils ne l'étaient pas. Quand je serai grand, je vais me rappeler que petit, je l'étais déjà.
1, 2, 3, sommeil, réveillez-vous. Les adultes ont de plus grandes dents que le méchant loup. C'est pas du jeu, ils trichent et mentent, veulent devenir riches et rentiers. On court dans une forêt d'émerveillement qu'ils veulent cimenter. Et quand l'enfant parle, personne n'est là pour l'entendre. Le monde d'un triste bazar, qui sait qui rangera la chambre. Peut-être une fée, un elfe, un dragon, une libellule bleue. Vieux, dans nos jeux d'enfants, on prend les choses au sérieux.
Je suis l'enfant roi, mais je n'ai qu'un seul caprice. T'arracher la terre des bras, loin du mari violent. La femme battue cicatrice, finis tes armes chimiques radioactives. Tes drones anti-écolo, je leur fais la guerre munis de bombes à eau. Je récupère le carrosse, les rênes, coup d'état avec des dents de lait. Je dissémine les espoirs, les rêves. Sans dire s'il te plaît, car si je dois m'adresser à toi, c'est pour te tirer la langue ou pour t'avertir qu'ici-bas, c'est moi qui commence.
Parce que le présent nous insulte, voici les enfants insolents qui catapultent les adultes plus haut que leur cerf-volant. Avec nos crayons de couleur, créer le monde qu'on a rêvé. Rêver d'une ronde pour danser, gouverner la mort volée.
Money back. We want it. tried your best, still here we are. Came many miles blazing our trail. Oh, come on for waves.
Want it back, want it back. Our world, we want it back. When it's rough and it's tough, we won't be giving up. I'm a queen, I'm a king, and I want everything. I'm a queen, I'm a king, and I want everything.
Wanted Back avec Guts sur France Inter. N'oubliez pas les podcasts de l'émission. Si vous n'avez pas le temps de nous écouter dans la semaine, eh bien vous pouvez nous retrouver tranquillement sur votre ordinateur. Il suffit tout simplement de vous abonner, c'est entièrement gratuit, pour écouter tranquillement donc les dossiers de la Tête au Carré sur franceinter.fr.
Salut, bienvenue dans Clashback. Bon, je vous explique. C'est un simulateur de prise de tête avec un parent. J'imagine que vous voyez le genre. Vous allez voir, mon père est un peu relou, mais c'est un brave type. Alors mettez-vous à ma place, lâchez-vous, montrez qui vous êtes.
Chloé a 16 ans.
Rien que 16 ans.
Elle est scolarisée en seconde.
Waouh, c'est super important comme info.
Gino, son père, rentre tard à cause de ses problèmes de boulot.
Voilà, et du coup il est chiant.
Ce soir, Chloé veut négocier avec lui l'autorisation de se faire tatouer une salamandre qu'elle aimerait voir courir sur sa hanche gauche.
Ouais, voilà, gauche, à 40 degrés de latitude nord.
Voilà, ce que vous entendez à l'instant, c'est l'extrait d'un Serious Game, un jeu sérieux, voilà, pour le traduire, qui s'appelle Clashback. Et Xavier Pomereau, vous êtes en ligne avec nous pour nous en parler, puisque vous êtes à l'initiative justement de ce jeu. Vous êtes pédopsychiatre, spécialiste de l'adolescence en difficulté, et vous dirigez le pôle aquitain de l'adolescent au centre Abadie, au CHU de Bordeaux. Alors, c'est un simulateur de disputes parents-ados. Racontez-nous comment vous avez imaginé ce projet au départ, et pourquoi Clashback ?
Alors, l'idée de départ, c'est de constater qu'un grand nombre d'adolescents, et en particulier les adolescents les plus en difficulté, sont aujourd'hui très peu enclins à s'exprimer quand on est en entretien classique avec eux. Ils n'ont pas envie de dire, alors on leur demande comment ça va, quel est ton problème, pourquoi tu te sens triste, etc. Ils ont beaucoup de mal à parler dans un entretien classique parce qu'ils vivent l'entretien, l'offre de dialogue comme une sorte d'interrogatoire. Alors on cherchait un support pour les aider à pouvoir s'exprimer tout en leur donnant accès à quelque chose d'assez ludique. Donc le Clashback, c'est pas un jeu pour jouer tout seul, c'est un support numérique utilisable par un parent, mais en fait on l'a créé pour des professionnels au départ, qui amène donc le joueur adolescent à jouer une partie où il incarne une jeune fille qui tente d'obtenir de la part de son père une autorisation de tatouage. Alors bien entendu, ça risque d'aller au gros conflit, d'où le mot clash. Le joueur s'aperçoit très vite que, en fonction des choix de dialogue qu'il emprunte pour parler à ce père virtuel, ben le père réagit évidemment plus ou moins bien. Donc ça peut aller au clash et back, parce que à la fin de la partie, il y a tout un commentaire de la part de mon avatar qui donne un point de vue par rapport au choix qu'a fait le joueur en utilisant tel ou tel propos. Si vous voulez, chaque fois que le joueur a accès et face au père, il peut choisir trois propositions, trois phrases possibles. Alors on peut être hypocrite, on peut être franc, on peut être très direct, on peut être très trash, et c'est évidemment ça qui plaît aux ados. Au bout de 5-10 minutes, ils sont pris dans le jeu et ils s'expriment sur leurs propres difficultés. Donc c'est vraiment pour nous, si vous voulez, un support de communication. C'est très étonnant de voir comment ça marche, aussi bien en relation individuelle qu'en groupe. D'ailleurs, on peut très bien réunir 3-4 ados, et on pense que pour un certain nombre d'éducateurs ou de psychologues qui animent des groupes de parole, le jeu peut vraiment être un support pour discuter, parce que le prétexte, c'est l'autorisation d'un tatouage, mais il y a, c'est Chloé, l'héroïne, vit dans une famille recomposée, il y a des jalousies avec la belle-mère, avec le petit demi-frère, elle a aussi des troubles alimentaires, elle est boulimique, enfin, il y a évidemment un grand nombre de choses qui concernent les adolescents, pas seulement le tatouage.
Oui, donc, si je comprends bien, et je pense avoir bien compris, c'est que vous allez utiliser ce jeu dans le cadre de consultations, c'est ça, entre les oui. professionnels et les ados.
Absolument. Consultation pour ce qui est des psys et groupe de parole pour les éducateurs qui, dans des foyers, dans des internats, auraient envie bah, justement de pouvoir discuter de certains sujets qui fâchent avec les ados et d'une manière ludique. Parce que, bien entendu, cette jeune fille, elle s'exprime vraiment comme une ado d'aujourd'hui. On a choisi de mettre des propos qui peuvent être même extrêmement poussés. Hein. Des ados nous ont aidés à trouver des phrases un peu choc. On peut dire vraiment, on peut dire des gros mots et ça leur plaît parce que si vous voulez, ça leur donne pas l'impression d'avoir accès à un jeu éducatif qui serait normatif et qui leur dirait tu sais c'est pas bien d'avoir des idées de tatouage, méfie-toi, ça reste pour la vie, etc. On se prononce pas là-dessus et donc on réalise, si vous voulez, en fait, une mise en situation numérique très, très réaliste.
Xavier Pomereau, comment est-ce que vous expliquez quand même que les adolescents, face à vous, dont c'est le métier, dont vous êtes le professionnel quand même de la parole et de l'écoute, aient autant de mal précisément à se livrer à l'oral hein ?
Mais probablement parce que ce sont des enfants de l'image qui savent davantage se dire à travers ce qu'ils montrent d'eux, aussi bien sur leur look, au niveau des accessoires qu'ils utilisent, sur leur page Facebook, dans leurs selfies, etc. Ils se disent à travers ce qu'ils montrent davantage qu'avec des mots MOTS d'emblée. Donc si on veut les faire parler, entre guillemets, il faut pouvoir utiliser des supports avec eux. Et par exemple, à côté de Clashback, on peut être amené dans mon service à leur demander de se maquiller aux couleurs de la tristesse. Et très étonnamment, si vous voulez, alors que ça choquerait un adulte qu'on lui donne ce genre d'injonction, les ados s'en saisissent. Au lieu de lui demander « explique-moi en quoi tu es triste », on lui demande « maquille-toi aux couleurs de la tristesse ». Et le fait de pouvoir réaliser cette figuration, cette représentation, seul ou avec l'aide d'ailleurs d'autres jeunes gens, leur permet ensuite de trouver les mots pour dire que s'ils ont dessiné une larme rouge sur leur joue, c'est quand leur papa a quitté le domicile familial. La larme noire à côté, c'est quand s'est disputé avec sa mère, etc. Enfin, voyez-vous, les ados d'aujourd'hui ont besoin d'images pour se dire.
Est-ce que ce jeu est destiné aussi à leurs parents ou pas ?
Eh bien, voilà, on l'a créé au départ pour des professionnels et on se rend compte, quand on le montre à des parents, qu'ils sont très intéressés par ça. Non pas pour jouer, d'ailleurs, forcément avec leur propre adolescent, mais pour, là encore, en groupe de parents, avoir un support qui leur permet d'échanger sur les grandes difficultés qu'ils peuvent rencontrer avec les adolescents. Et donc, on pense que à l'heure où les cafés de parents se développent un petit peu dans notre pays, et je trouve que c'est une excellente idée, d'ailleurs, le Serious Game Clashback peut aider à vraiment animer ces groupes de parents avec l'aide d'un professionnel.
Alors, il est déjà disponible hein, pour les professionnels de santé, justement, de l'éducation, du social, pour le grand public. Vous avez un site web hein, qui s'appelle clash-back.com. Donc, ça s'achète ? Comment ça se passe pour se
oui,
procurer ?
Ça s'achète en ligne, c'est-à-dire qu'on va sur ce site et puis on peut voir une petite démo, on peut lire un certain nombre de choses qui concernent le jeu et on peut l'acheter en ligne.
Ouais. Quel a été le protocole ?
L'autre souci, ouais. si je puis dire, c'est que si on aurait bien aimé pouvoir faire un jeu qui serait ou gratuit ou vraiment à 3 euros, le problème c'est que ça coûte très très cher à fabriquer et que du coup on est obligé de le vendre.
Quel est le protocole justement que vous avez mis en place pour tenter de trouver le jeu dans lequel l'adolescent va avoir envie de s'impliquer ? Parce que j'imagine que ce n'est pas si simple que ça.
Oui, alors on a réuni des ados, bien sûr, et puis on leur a demandé comment ils verraient les choses pour être incités à s'exprimer sur justement des sujets qui fâchent. Le père, par exemple, de Chloé, le père virtuel dans Clashback, est un monsieur qui n'est pas du tout méchant, qui est un père de famille, qui n'est pas d'accord avec les tatouages, qui est capable de dire un certain nombre de choses à ce sujet et de faire des remarques pertinentes. Simplement, il est par moments un peu maladroit et bien entendu, l'adolescent virtuel qu'incarne le joueur peut s'engouffrer engouffrer dans ses brèches et l'amener dans ses derniers retranchements. Pourquoi t'as quitté maman, comment ça se fait que tu t'es mise avec la belle-mère. Enfin, vous voyez, il y a donc des extrapolations qui sont d'un réalisme tel que les gens, bon, bien entendu, sourient, parce que c'est quand même, c'est pas fait pour être triste, hein, c'est fait aussi pour être un peu ludique, c'est un jeu. Mais en même temps, c'est un jeu sérieux, puisque vraiment à la fin, le bilan commenté donne des indications très précises sur les moments, les endroits de blocage, sur pourquoi là, ça s'est parti en vrille, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi la réaction se passe comme ça, comment on pourrait faire autrement. Enfin, si vous voulez, je crois que ça sera utile aussi pour les écoles d'infirmières ou d'éducateurs, pour amener les élèves futurs professionnels à savoir se positionner par rapport aux adolescents. Enfin, nous, on pense que ça peut être un... En fait, vous voyez, à l'image des simulateurs de vol en aéronautique pour apprendre aux pilotes à piloter, ben le simulateur Clashback permet de piloter la relation avec des adolescents.
Voilà, facilitateur de dialogue, hein, c'est comme ça que vous le présentez. Ça pourrait ouvrir des voies cliniques intéressantes, justement, plus tard aussi, avec des tests médicaux, pourquoi pas ?
Absolument, et d'ailleurs, actuellement, Clashback fait l'objet de deux études scientifiques, donc très sérieuses, au CHU de Brest et au CHU de Bordeaux, pour voir si c'est un test d'impulsivité. Parce que sans le vouloir, en fait, en créant ce jeu, avec quand même 500 adolescents hein, qui ont été capables de le tester, on s'est rendu compte que ceux qui partent, les joueurs adolescents qui partent le plus vite dans les sapins, si je puis dire, sont souvent des adolescents extrêmement impulsifs. Même lorsqu'ils veulent obtenir le tatouage à tout prix, au bout de 5-10 minutes, le père est tellement un peu énervant qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de lui rétorquer des propos qui sont évidemment très très mal reçus. Donc on pense que ça peut être un test d'impulsivité et on va donc le confronter scientifiquement à des tests psychologiques d'impulsivité qui sont beaucoup moins drôles à manier.
Bon, ben voilà, donc ce jeu vidéo, ces jeux d'ailleurs qui ont pris une place considérable évidemment dans la vie des adolescents aujourd'hui, mais ce sera probablement pas un sujet de dispute puisque là, c'est dans le cadre d'une consultation avec un pédopsychiatre, ça s'appelle Clashback. Vous êtes également l'auteur Xavier Pomereau d'un livre, nosados.com, qui avait été publié chez Odile Jacob. Et toutes les infos sont en lien évidemment sur le site de la Tête au Carré. Merci Xavier Pomereau d'être passé par chez nous cet après-midi.
Merci à vous.
Au revoir. Allez, dans un instant, une première dans le domaine cardiaque. On en parle avec notre dernière invitée. Et ce sera juste après Charlie Winston et Lately sur France Inter. Bon début de week-end.
Waited a little while longer. Was the feeling too strong lately?
La tête au carré. Le club. Sur France Inter.
Bonjour Philippe Ménaché.
Bonjour.
Vous êtes notre dernier invité cet après-midi. Vous êtes chirurgien cardiaque à l'hôpital européen Georges Pompidou et pionnier de la thérapie cellulaire dans le domaine de l'insuffisance cardiaque. Vendredi dernier, la PHP a annoncé qu'une patiente de 68 ans qui souffrait d'insuffisance cardiaque avait bénéficié donc le 21 octobre dernier d'une greffe cellulaire dont vous êtes à l'origine. Depuis quand est-ce que vous travaillez sur cette piste thérapeutique ?
Alors la piste de la thérapie cellulaire de l'insuffisance cardiaque, nous travaillons dessus depuis très exactement 20 ans.
Oui.
De façon plus spécifique, le projet qui concerne les cellules souches embryonnaires transformées en cellules cardiaques, ce projet a démarré il y a maintenant 10 ans.
Quelle était l'idée alors pour vous au départ justement en pratiquant donc cette première ?
L'idée, si vous voulez, c'est que dans l'insuffisance cardiaque, très souvent à la suite d'un infarctus du myocarde, une partie importante du cœur qui a été totalement détruite.
C'est ça l'insuffisance cardiaque en fait ?
C'est en tout cas le substrat. C'est ce qui explique en grande partie l'insuffisance cardiaque. C'est un petit peu plus complexe, mais enfin, schématiquement, on peut le dire ainsi. Donc il y a une partie importante du cœur qui ne se contracte plus, donc la fonction pompe, si vous voulez, du cœur n'est plus assurée. Et donc l'idée générale de la thérapie cellulaire, c'est d'essayer de redonner un peu de vie à ces zones mortes en y implantant de nouvelles cellules.
Et les cellules souches sont de très bonnes candidates pour ça ?
Alors les cellules souches sont de très bonnes candidates, mais je ne prétendrai certainement pas que les cellules cardiaques dérivées de cellules souches embryonnaires telles que nous les avons utilisées sont meilleures que tel ou tel autre type cellulaire. Chaque groupe poursuit sa propre piste et sa propre recherche. Nul aujourd'hui ne sait réellement quelles sont entre guillemets les meilleures cellules, mais il y avait tout de même des arguments sérieux quand nous avons commencé pour penser que pour remplacer des cellules cardiaques mortes, rien ne valait finalement mieux que d'implanter de nouvelles cellules cardiaques et non pas des cellules extracardiaques, si j'ose dire, comme peuvent l'être celles de la moelle sanguine ou celles du muscle squelettique, qui sont d'ailleurs les premières que nous avons utilisées il y a 15 ans.
Ouais, alors jusqu'à maintenant, il y avait des traitements pour traiter l'insuffisance cardiaque, mais il y avait des problèmes qui se posaient, donc ce n'était pas satisfaisant.
C'est-à-dire que les traitements sont, heureusement, dans une grande majorité des cas, parfaitement efficaces. La thérapie cellulaire vise une fraction de malades atteints d'insuffisance cardiaque, chez lesquels, précisément, les traitements médicaux ne sont plus efficaces. On estime, si vous voulez, qu'il y a à peu près 10 à 15% des insuffisances cardiaques, et il y a beaucoup de ces patients en France. On estime que c'est de l'ordre de 200 000 nouveaux cas par an. Donc ce n'est pas négligeable. On estime donc qu'il y a à peu près 10 à 15% de ces formes d'insuffisance cardiaque qui deviennent réfractaires aux traitements médicaux, donc qui sont réellement handicapantes pour le patient et qui justifient par conséquent qu'on essaye d'améliorer l'état de ces malades par des traitements nouveaux. La thérapie cellulaire en est un.
Ouais, alors cette thérapie cellulaire, justement, avant d'arriver à cette patiente là, qui va très bien, qui rentre chez elle maintenant, vous êtes passé par l'animal, comme très souvent, évidemment.
Oui, oui. Ben, c'est ce que je vous disais, on a commencé ce projet spécifique il y a 10 ans et on a suivi le cheminement classique, c'est-à-dire des études chez l'animal, le petit animal, puis le gros animal, à la fois pour valider l'efficacité de la technique, pour répéter la technique elle-même et pour s'assurer surtout, avec les limites de l'expérimentation animale bien sûr, mais pour s'assurer surtout que cette thérapie n'était pas associée à des complications spécifiques, la sécurité restant pour ces thérapies innovantes l'objectif numéro un.
Donc les animaux, donc en l'occurrence les souris et les macaques, hein, vous ont rassuré dans ce domaine, vous avez eu des bons résultats, donc vous avez décidé de passer à l'homme.
Oui.
Alors chez cette patiente en particulier, pourquoi cette candidate-là alors ?
Au terme des études qui ont été menées chez l'animal, nous avons donc déposé un dossier auprès de l'agence réglementaire française, l'AFSAPS qui est devenue l'ANSM, peu importe. Et à partir du moment où nous avons eu l'autorisation, nous avons bien évidemment cherché des candidats qui rentraient dans le cadre des critères d'inclusion de l'essai. Il s'est trouvé que cette dame, qui n'est pas la première d'ailleurs à avoir été étudiée dans la perspective de telles inclusions, cette dame vraiment remplissait tous les critères. Nous lui avons très clairement expliqué les enjeux, les risques, les bénéfices potentiels. Je crois qu'une relation de confiance s'est très vite établie avec elle et son mari. Et elle a donc accepté que, en plus, c'est important à souligner, du pontage coronaire classique,
qui était associé,
dont elle avait besoin. Elle a donc accepté qu'en plus, on essaye de faire quelque chose pour, comme je le disais, revivifier un peu la zone de son infarctus sous la forme de l'implantation des cellules.
En quoi ça consiste alors une intervention d'un chirurgien des cellules ?
L'intervention, si vous voulez, elle est très simple. Elle est très simple parce que en chirurgie, vous savez, il y a une règle générale, ne sont efficaces que les techniques simples. Si c'est trop compliqué, ça ne marche pas ou ça reste très confidentiel. Donc les cellules en question, elles sont incluses dans un patch, dans un gel. Imaginez un gel, semblerait presque être de la pâte à modeler, si vous voulez. Et ce gel est déposé au cours de l'intervention sur la zone de l'infarctus, qu'il est très facile pour nous de repérer, puisqu'on a le cœur sous les yeux. Et puis, l'imagerie préopératoire nous a exactement indiqué où se trouvait l'infarctus. Donc, on va directement sur la zone, on dépose ce patch dans lequel se trouvent les cellules. Et puis, ça prend quelques minutes. Et c'est à la fois non-invasif, simple et reproductible.
Alors, justement, qu'est-ce que vous observez aujourd'hui, précisément, sur ce muscle cardiaque ?
Alors, ce qu'on observe d'abord...
Les cellules ont proliféré ? Elles ont refabriqué de la matière ? Comment ça se passe ?
Je ne peux pas vous dire si les cellules ont proliféré parce que nul aujourd'hui ne dispose des outils méthodologiques qui permettraient de suivre en temps réel le devenir des cellules implantées dans l'organe.
Ce serait très intéressant.
Beaucoup de gens y travaillent. Ouais. On peut approcher ce problème chez l'animal, mais certainement pas aujourd'hui chez l'homme. Je vous rappelle que le caractère innovant de cette technique fait que l'objectif premier qui nous a été assigné est celui de la sécurité. Donc ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'avec un recul de 3 mois, la dame va très bien et qu'aucune complication spécifique n'a été observée. Ensuite, vous me demandez qu'est-ce qui s'est passé. Ce que l'on voit, c'est que la zone morte, celle qui ne se contractait pas et où j'ai mis le patch, aujourd'hui se contracte un peu. Ce n'est pas quelque chose de spectaculaire, c'est un signal encourageant, mais je reste prudent. On ne tire pas de conclusion d'une observation, a fortiori lorsque un autre geste a été associé, et c'est le cas sous la forme du pontage.
Avec le pontage. Dernière chose évidemment importante, ces cellules souches sont issues d'embryons, c'est ça ?
Ces cellules souches sont issues d'embryons dits surnuméraires, c'est-à-dire qu'ils ont été conçus dans le cas d'une procréation médicalement assistée, qui permet en général d'obtenir 2, 3, 4 embryons. Ces embryons ne sont pas tous réimplantés chez la maman lorsqu'il n'y a plus de projet parental, et la loi permet à ce moment-là aux parents qui le souhaite et que l'on sollicite de faire don de ces embryons, promis à la destruction, permet donc d'en faire don à des fins de recherche scientifique.
Voilà, semaine importante pour la cardiologie française, en tout cas, qui affiche de très beaux résultats. Cette première mondiale, donc grâce à vous, Philippe Ménaché, et à votre équipe. Et puis, l'implantation réussie, là aussi, du cœur artificiel. On a largement parlé cette semaine avec donc le patient, lui aussi, 68 ans, qui est rentré chez lui début janvier. Merci beaucoup d'être passé dans le club des Têtes au Carré cet après-midi. Juste après les infos, ce sera Faire Sensible, Fabrice Drouel, Aldo Moro, ce sera le thème aujourd'hui.